Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle conférence du Club Change Plus d'Alexio, qui va être consacrée aujourd'hui aux enjeux environnementaux auxquels les entreprises doivent et devront faire face, de plus en plus dans les années à venir et aux transformations que ces enjeux
J'ai l'impression qu'on a les effets.
engendrent. Alors, pour échanger sur ce thème d'actualité, particulièrement d'actualité même, je pourrais dire, on a le plaisir de recevoir ce matin Valérie Berthaud, qui est directrice de la politique produits du groupe Thales et qui nous expliquera comment un groupe industriel international de haute technologie comme Thales s'adapte pour traduire les enjeux, les objectifs environnementaux en réalité concrète au sein même des produits. Bonjour Valérie. Je vous propose pour démarrer que vous nous présentiez un petit peu qui vous êtes, votre parcours, peut-être à la fois académique, mais aussi au sein de l'entreprise, et puis avant, ce que vous avez pu faire avant également.
Yeah, bah écoutez, bonjour à tous, c'est un grand plaisir et un grand honneur d'être avec vous ce matin. Alors, j'ai une formation d'école de commerce, mais aussi d'école d'ingénieur. Et j'ai fait quasiment l'ensemble de ma carrière dans le groupe Thales, en alternant entre l'aéronautique militaire, les systèmes militaires, et l'aéronautique civile, les systèmes de transport terrestre, les calculateurs embarqués. Et ça fait maintenant dans des fonctions, oui, c'est ça, dans des fonctions toujours liées à l'innovation, aux technologies duales, à la valorisation de portefeuilles technologiques. Pilotage de centres de profit aussi, commerce international évidemment, ça fait partie des figures imposées dans un groupe comme le nôtre. Et puis il y a une petite dizaine d'années, on m'a demandé de structurer et d'organiser une nouvelle fonction dans le groupe qui est la fonction politique produit. Alors vous allez me dire qu'est-ce que je viens faire dans une histoire d'ESG
Alors oui, justement, j'allais vous demander, les préoccupations environnementales, elles sont extrêmement importantes, mais du coup, pour un groupe comme Thales, comment elles sont prises en compte? Comment ces préoccupations environnementales, ces défis environnementaux sont-ils intégrés à la fois dans la stratégie du groupe et puis dans la politique produit?
Alors, déjà, je me suis intéressée aux questions de développement durable assez tôt, puisque j'ai fait rentrer le groupe dans un écosystème d'innovation qui s'appelle le Moving On Lab, qui rassemble à peu près la moitié des sociétés du CAC 40 dédiées vraiment à la mobilité durable et inclusive. Et on a été les premiers, on a été assez innovateurs dans ce contexte-là. Et pourquoi? Parce qu'il y a quand même une infrastructure numérique importante dans ce changement. Donc j'ai fait partie des premiers acteurs et en 2019, le groupe a annoncé officiellement des engagements en matière de stratégie pour un futur bas carbone, aligné avec les accords de Paris, avec une ambition de décarbonation des émissions directes et indirectes. Et à cette époque-là, on m'a demandé de prendre le leadership de la stratégie environnementale pour nos produits. Donc en fait, j'ai deux casquettes dans le groupe. J'ai la casquette politique produit, mais aussi la partie environnementale pour les produits. Et je travaille étroitement avec, évidemment, les experts en charge. Alors, comment le groupe s'est emparé de cette question? En fait, le groupe a annoncé officiellement une posture à l'automne 2019 et qu'il a reconfirmé, je dirais, en 2021 et qu'il a renforcé. En fait, en étant quelque part plus agressif, puisque par rapport à la référence 2018, le président a annoncé la volonté, Patrice Kane, de réduire les émissions directes de 35% en 2023, alors que l'annonce précédente était de l'ordre de 20% par rapport à 2018, et en 2030, d'aller jusqu'à 50%, alors que nous étions à 30, oui, c'est ça, alors que nous étions à 40%. Au-delà de ça, il a été annoncé la volonté d'atteindre le net zéro en 2040 pour nos émissions directes. Alors, comment Thales s'est emparé de ce sujet? Plusieurs éléments dans sa stratégie. En introduction, je disais qu'on opère dans des univers extrêmement réglementés sur les aspects S, sur les aspects G et aussi sur les aspects E, puisqu'on a été confronté très vite dans l'électronique aux aux enjeux des substances à travers les réglementations, oui, ROHS européennes. Donc ça nous a amené déjà à intégrer beaucoup de choses dans la conception de nos produits et d'aller rechercher des solutions techniques alternatives parce que parfois, par exemple, son plan, il y a eu une période où les solutions alternatives n'existaient pas. Donc il a fallu aller les chercher, les créer, les inventer. Tout ça pour dire qu'on n'est pas parti de rien, on est parti sur un socle déjà préexistant, riche et assez structuré. À partir de 2019, il a été décidé d'accélérer ça en lien avec notre raison d'être, qui est bâtir un avenir de confiance. Donc on est clairement dans cette philosophie. Aujourd'hui, la stratégie environnementale fait partie intégrante du plan stratégique du groupe. Dans notre stratégie, ça va impacter plusieurs facettes. L'année dernière, on a embauché un peu plus de 10 000 personnes dans le monde, ce qui est très significatif. On est dans un univers de guerre des talents. Et les jeunes ingénieurs aujourd'hui
Pouvoir les attirer.
sont extrêmement sensibles à des questions de type ESG. Donc, ils vont nous challenger. Les jeunes embauchés, enfin les jeunes qu'on cherche à attirer, mais les jeunes embauchés aussi. Donc il y a aussi des questions de fidélisation. Donc il y a une thématique, je dirais, ressources humaines qui est extrêmement importante. Il y a une thématique autour de nos fournisseurs. Et là, on est sur une facette où on va être plutôt dans l'accompagnement de nos fournisseurs, dans de l'impulsion. Et donc, on a toute une campagne de focalisation autour de nos 150 fournisseurs les plus émissifs, où on les accompagne, on fait du transfert de savoir-faire, du transfert d'outils aussi, et du partage d'objectifs et autres. Donc, voilà ce que nous faisons avec nos fournisseurs. Et la dernière facette va être vis-à-vis de nos clients et de la société. Et là, c'est l'usage de nos produits. Pour ce qui est de l'usage de nos produits, on a mis sous contrôle, oui, sous contrôle étroit, je dirais, les produits les plus émissifs. Donc on a ciblé les 20 produits les plus émissifs et qu'on met sous contrôle étroit pour atteindre les objectifs de décarbonation. Quasiment 80% des émissions de CO2 liées à l'usage de nos produits sont liées à la mobilité de ces produits. Donc ça nous amène à faire une chose, c'est à nous préoccuper d'une part de la conception de nos produits et de la façon dont ils sont conçus et éco-conçus, et ça j'y viendrai, mais aussi à nous occuper des émissions de nos clients, voire de nos clients de nos clients. Et ça, on arrive vers une notion qui est la notion des émissions évitées et du scope 4.
Tout à fait. Et alors, on viendra à l'éco-design juste après. Moi, quand même, il y a une question que je me pose quand je vous écoute, c'est vous devez transformer à la fois vos produits pour respecter vos engagements, pour essayer de faire baisser l'impact sur le changement climatique. Comment on concilie ces ambitions avec le fait de continuer à faire des bénéfices, puisque c'est quand même l'objet d'une entreprise, et a fortiori comme une entreprise comme Thales. Comment on concilie ces deux objectifs qui peuvent paraître contradictoires?
En fait, ils ne sont pas du tout contradictoires. Ils ne sont pas du tout contradictoires parce que, je dirais aujourd'hui, se préoccuper des enjeux environnementaux, des enjeux sociétaux, pour une entreprise comme Thales, ça n'est pas une option, c'est notre raison d'être. Donc, ça n'a pas de. C'est même plutôt une opportunité, j'aurais tendance à dire, qu'une contrainte. Alors, même si ça pose des questions, ça relève des défis. On ne sait pas tout, loin de là, hein, comme le disait Tuitienne, toutes les technologies ne sont pas disponibles. On n'a pas complètement pris la mesure de l'impact du changement climatique non plus. Pour nous, c'est plutôt vu comme une opportunité de progresser et de mieux co-construire avec nos fournisseurs et nos clients, en fait. Alors, sur les méthodes et sur les produits. Je vais essayer de ne pas faire trop technique.
Ok.
Mais pour faire simple, quand on parle d'éco-conception, si vous allez sur le site de l'Union européenne ou de l'ADEME, vous trouvez une définition extrêmement large et qui est quand même au final très centrée sur l'efficacité énergétique des produits. Donc en effet, quand on a déployé les premières démarches d'éco-design, ça a consisté dans un premier temps à mettre l'emphase sur la consommation énergétique et la limitation des émissions de CO2 qui sont éminemment liées au poids et à la consommation énergétique des produits. Donc il y a eu dans une première vague technique l'idée de réduire le poids, la masse, la consommation. Donc on a des produits pour lesquels, par exemple, on a divisé par plus que 3 la masse. Alors, forcément, quand vous divisez par plus que 3 la masse d'un objet qui vole, mécaniquement, ça baisse les émissions de CO2. Bon. Donc ça, c'est un premier exemple. Je dirais que ça a touché l'aérien depuis extrêmement longtemps, mais l'ensemble des équipements et l'ensemble des domaines. Autre approche de type éco-design, ça va être ce qu'on va trouver, c'est du X en un. On a aussi eu une tendance où on avait une boîte, et ça c'est la culture électrotechnique, une boîte qui faisait une fonction, une fonctionnalité. Par exemple, un boîtier électronique qui servait les commandes de vol. Je dis n'importe quoi à dessein. Aujourd'hui, on va avoir dans le même boîtier électronique X fonctions. 2, 3, 4. Et donc le X en 1, quelque chose que l'on voit se déployer dans beaucoup d'éléments du portefeuille, y compris dans la défense. J'ai parlé de l'additive manufacturing. Le dernier élément autour de l'efficacité énergétique, ça va être tout le travail du Frugal by Design. Donc le Frugal by Design, ça va être l'optimisation des ressources au maximum. Alors, l'optimisation des ressources, ça va concerner dans un premier temps l'utilisation d'algorithmes frugaux dans l'intelligence artificielle, par exemple, où on va chercher à utiliser des algorithmes beaucoup plus optimisés. On va s'intéresser aussi au langage. Alors, les langages informatiques, je ne vais pas vous lister tous les langages informatiques, mais aux surprises, les langages un peu anciens, le bon vieux C++, sur lequel la plupart de nos systèmes tournent, hein, faut le savoir, où l'ADA font partie des langages les plus frugaux en termes d'émissions énergétiques, alors que les langages de dernière génération qui viennent du numérique et du monde du web sont pas du tout économes. Ils sont même au contraire très, très émissifs. Donc voilà un peu tout le scope sur cette partie-là. Après, l'éco-design va toucher d'autres parties. La recyclabilité. On fixe des taux de recyclabilité dans nos produits d'environ 20% aujourd'hui, mais c'est un programme sur lequel on va être beaucoup plus ambitieux dans les années qui viennent. Donc ça, c'est un aspect. L'usage de matériaux recyclés ou biosourcés, on va utiliser du biomimétisme. Alors, pour faire un clin d'œil à Tuitienne, on a lancé l'année dernière l'éco-SIM et puis la carte bancaire à base de plastique recyclé, qui se vend très bien d'ailleurs. Donc tout ça pour illustrer que c'est vraiment une opportunité. Après, on a deux autres angles de vue autour de l'éco-design. On est sur des produits à cycle extrêmement long. Alors, les plus courts, évidemment, c'est quelques années, mais on est plutôt sur des terrains qui sont des durées de vie de 20-30 ans. Les produits à cycle, le maximum, c'est à peu près 40, un peu plus de 40 ans. Donc, ce qui veut dire qu'il faut gérer les insertions technologiques en prenant en compte les enjeux environnementaux.
Comment vous accompagnez vos ingénieurs pour prendre en compte cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle façon de penser presque, je dirais?
Alors, on les accompagne de plusieurs manières. D'une part, des programmes de formation, formation intensive, et ensuite, on a un programme de transformation pour faire en sorte qu'ils l'adaptent dans chacun de leurs secteurs. parce que c'est le seul moyen d'aboutir à une vraie appropriation. Ça, c'est une première chose, et c'est un programme qui m'occupe beaucoup d'ailleurs, et qui fait partie de la part variable du management. Donc, gros programme de formation, mise en place d'outils de calcul d'émissions de CO2 et de modèles. Donc, c'est ce que je disais au départ, modélisation du comportement des produits, des plateformes. Et ça amène à extrêmement bien connaître la façon dont nos produits sont utilisés pour repopuler ces modèles de façon fiable. Et puis aussi un outil qui accompagne les ingénieurs pour faire le meilleur trade-off entre les besoins fonctionnels et les impacts environnementaux. Un élément important de la transformation, c'est de se faire accompagner par des experts et par des tiers extérieurs, ou de se faire challenger par des tiers extérieurs. Donc, on est entouré d'un certain nombre de sociétés, dont Carbone 4, qui est bien connu, mais d'autres.
Sur les sujets environnementaux, oui.
Sur les sujets environnementaux, on a soumis notre dossier SBTI l'année dernière. On est au CDP. J'ai eu l'occasion d'aller à la COP26 à Glasgow. Donc, on est dans tout cet univers-là, et c'est à la fois un travail interne et un travail externe. Il y a aussi un travail qui est fait avec nos clients directement. Alors, on a à peu près toute la palette, c'est-à-dire des clients extrêmement exigeants et engagés qu'on va trouver dans la banque, par exemple, ou dans les telcos, qui vont demander des life cycle, des ACV, donc des analyses de cycle de vie, ce qu'on appelle des LCA, avec des Environmental Product Declaration, donc qui vont être extrêmement exigeants sur la nature du partage d'informations sur l'impact environnemental, jusqu'à des clients qui sont moins sensibilisés en première intention, mais qui sont par exemple très préoccupés par les problématiques d'efficacité énergétique. C'est ce qu'on va trouver un peu plus dans les aspects défense et sécurité. D'abord, on a lancé toute une campagne de sensibilisation, d'acculturation, en ciblant en particulier les jeunes ingénieurs avec la fresque du climat et la fresque du numérique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on déploie massivement pour faire évoluer les cultures, et finalement, c'est un excellent levier. En fait, le problème, ce n'est pas tellement les jeunes ingénieurs. C'est plutôt, je dirais, les anciens qui ont été acculturés à faire de la surperformance, parce qu'un des éléments de l'éco-conception qui est en incidente, c'est le fait que on a été habitué à concevoir des produits qui vont répondre aux exigences maximum, et on est en train de passer d'une culture de l'exigence maximum qui finalement apparaît dans la vie d'un produit que 10% du temps, au good enough qui répond à la moyenne. Et ça, c'est une évolution culturelle dans la conception, mais c'est aussi une évolution culturelle du point de vue du client. Autre évolution, tu parlais des business models, bah oui, on évolue de plus en plus sur de l'économie circulaire et de l'économie de fonctionnalité, bien sûr.
Merci beaucoup et très bonne journée à tous.